Vous êtes à l'antenne de Radio Ville-Marie, dans le cadre de la série Destination Bonheur. Notre invité aujourd'hui, M. Léopold Lauzon. M. Lauzon, dans votre livre, vous avez un regard assez sévère sur ce qui est très à la mode de ce temps-ci, c'est-à-dire les PPP, les partenariats publics-privés. Vous dites que quand on parle de PPP, on trompe les gens, car ce n'est pas du partenariat, c'est de la privatisation, de l'impartition et de la sous-traitance.
Bien, définitivement, écoutez, quand vous donnez de la gestion d'un immeuble, d'une autoroute, des aqueducs pour 30-40 ans, premièrement, il n'y a pas de concurrence. Le gestionnaire, comme là, on va donner une autoroute, la nouvelle autoroute ici au Québec, le pont de Laval en PPP, etc., pour 40 ans, bon, mais c'est la durée de la vie utile. C'est une façon hypocrite de privatiser. Mais vous savez, ça s'inscrit, et c'est ça qui est la mode, le démantèlement de l'État. Écoutez, on a privatisé, là, carrément. Parce que là, on a privatisé sans aucun débat public. Alors que même aux États-Unis, on a eu droit à un référendum. On a privatisé sans aucun débat public Air Canada, le CN, Petro-Canada, Téléglobe, Télésat, les aéroports, le NAV Canada, le contrôle aérien, les arsenaux canadiens, sans aucun débat public, etc. Là, on est en train de privatiser des autoroutes, la santé, etc., sans aucun débat public, parce que sur la santé, où on l'a vu, là, pour la santé ou pour l'eau, les débats se font comme le libre-échange en catimini entre des politiciens et des gens d'affaires, etc., où il n'y a aucune transparence. Exemple, pour l'article sur l'investissement étranger, mais une chance qu'il y a des groupes, etc., qui ont réussi à la voir, sinon on est en train... Donc, tout se décide à l'encontre de la volonté des gens, parce que les gens ne sont pas dupes, étaient contre le traité de libre-échange.
Avez-vous l'impression, parfois, que votre discours... Avez-vous l'impression de prêcher carrément dans le désert?
Bien, ici, regardez, ici au Québec, c'est plus difficile.
Pourquoi?
Et en Amérique du Nord. Pourquoi? Bon, exemple, être en France. Bon, en France, c'est sûr, ils ont leurs journaux de droite, le Figaro, le Parisien, François. Mais à côté, vous avez d'autres journaux. C'est-à-dire qu'il y a tout un échantillon. Vous avez Libération, vous avez le Canard enchaîné, vous avez même Le Monde, vous avez l'Humanité. Donc, vous avez des journaux. Moi, exemple, être en France, c'est sûr que je serais publié dans d'autres. Mais ici, on est pogné avec le Journal de Montréal, la presse à Montréal, en tout cas, là, dans l'audit, c'est le...
Ce que vous dites, c'est que la presse n'est pas libre.
Non, elle n'est pas libre. Il est bien évident. Écoutez, prenons juste la presse qui est contrôlée par Power. Bon, la presse, c'est pas rien que la presse, c'est Le Soleil à Québec, La Tribune, Le Nouvelliste, Le Quotidien, le
Droit. Ce que vous évoquez, c'est la concentration de la presse.
Ben oui. Puis surtout, quand vous avez une multinationale comme Power qui détient un gros pourcentage des médias écrits, puis Power Corporation, lui-même, par le biais de ses filiales, est intensément présent dans la santé privée par le biais de ses filiales Canada Life, Great West Life et London Life, est intensément présent dans les pensions privées, parce que là, la prochaine étape, ça va être ça, privatiser les fonds de pension, les pensions de vieillesse par Investor McKenzie, est intensément présent dans l'eau privée, les aqueducs par la Lyonnaise des Eaux, il est actionnaire de la Lyonnaise des Eaux, il est actionnaire aussi dans GDF, Suez, qui est dans l'électricité et le gaz naturel.
Mais bon, si on fait fi des détails, quel est le contrepoids à tout cela?
Bien, le contrepoids, écoutez, ça prendrait des lois, ça prendrait une réglementation pour dire que les médias écrits et les médias parlés ne soient plus contrôlés par des multinationales qui ont des intérêts. Il faudrait que ça soit contrôlé par des compagnies de presse, un point de tout.
Est-il trop tard pour intervenir?
Ben, écoutez, moi, je pense que il est trop tard pour intervenir. Écoutez, regardez, quand on parle de privatisation, là, tous les semaines, on parle, doit-on privatiser le transport en commun? Doit-on privatiser la SEQ? Doit-on privatiser Hydro-Québec? Mais quand, moi, je viens pour parler, moi, je veux nationaliser, comme dans tous les pays producteurs, exportateurs de pétrole, nationalisons le pétrole. Il y a personne qui pose pour... On va-tu faire un débat là-dessus? Pourquoi c'est-tu rien qu'une démocratie à sens unique, où c'est le démantèlement d'État, où on peut parler de privatisation? Privatiser la santé, privatiser l'éducation, privatiser les garderies, mais quand on parle plus d'État, parce que moi, je pense que l'État a sa place, puis comme on fait dans tous les pays d'Amérique du Sud, les pays d'Amérique du Sud l'ont expérimenté, le néolibéralisme, succès à l'outrance, où ils ont subi les dictats de la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire. Et là, la majorité des pays d'Amérique du Sud, maintenant, ont élu des gouvernements socialistes, que ce soit la Bolivie, l'Équateur, le Nicaragua.
Parce qu'ils étaient aux prises avec un état de pauvreté terrible.
Oui, puis une concentration de la richesse, puis où, bon, ben voilà. Alors, donc, l'État a sa place. Puis c'est pour ça que Chavez a eu bien raison. Exemple, c'est juste des médias privés détenus par des multinationales, là, puis où il n'y avait vraiment pas de liberté. Alors, Hugo Chavez, qui a fait au moins pour des médias parler, etc., un qui allait trop loin, puis qui de par sa puissance, c'est ça qu'il faut faire. Comme ici, pourquoi on a fermé Choix FM à Québec? Hein? Là, personne n'a chialé. Là, à cause qu'Hugo Chavez ferme une station de radio au Venezuela, etc., puis parce qu'il veut changer la Constitution.
Tout est dans l'équilibre entre la liberté et l'égalité. Hugo
Chavez est très équilibré. Écoutez, moi, je vais vous donner un exemple de la liberté. C'est quoi votre liberté si vous naissez aux États-Unis? Puis vous n'avez pas un accès gratuit universel à la santé, l'éducation, le transport, quand même le logement. C'est quoi la liberté des 44 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture d'assurance? À Cuba, ils sont bien plus libres qu'aux États-Unis. À Cuba, tous les citoyens ont droit à l'éducation, on doit à la santé, on droit au logement, etc. Comme je le dis, tout un dictateur, Fidel Castro, il éduque son monde, puis il soigne. J'ai jamais vu un dictateur de tu sais, mais on a le don de diaboliser. Puis ça, c'est voulu par nos médias aussi, puis comment dire, nos groupes de pression de droite, pour diaboliser tout ce qui vient à l'encontre de leur petit modèle.
Monsieur Lauzon, le message est bel et bien adressé. Je vous amène cette fois-ci en Europe avec Baggio Antonacci, Quanto tempo è ancora.
Non ci credevo. Ho detto è lei o no? Tra tanti amici. Non ti aspettavo qui. Solita sera, la solita tribù, tu che mi dici, stai sempre con i tuoi e ti accompagna un'emozione forte e ti accompagnava ancora la solita canzone. Ma quanto tempo è ancora, ti fai sentire dentro, quanto tempo è ancora, rimbalzi tra i miei sensi, quanto tempo è ancora, ti metti proprio al centro, quanto tempo è ancora, mi viene da star male, sento che se te ne vai adesso, io potrei morire. Che se te ne vai adesso, ancora tu l'amore. Sono anche i tuoi, guardali bene, non cambieranno mai, saluti e baci, poi prendi e te ne vai, sì, forse è meglio, così non mi vedrai. Piangere, poi ridere, poi prenderti un po' in giro, fingere davanti a tutti di aver dimenticato. Ma quanto tempo è ancora, ti fai sentire dentro, quanto tempo è ancora, rimbalzi tra i miei sensi, quanto tempo è ancora, ti metti sempre al centro, quanto tempo è ancora, ancora tu l'amore. Na, 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 na.
Armand Dubois au micro, en compagnie de M. Léopold Lauzon. M. Lauzon, depuis déjà une bonne portion de l'émission, on voit que vous êtes encore animé par cette foi profonde de défendre les injustices. Léopold Lauzon, dans sa vie personnelle, est-il constamment à l'affût des injustices qui l'entourent?
Oui, ben écoutez, je suis quelqu'un qui est très casonnier, qui est très ermite. Je suis chez nous, puis je bouge pas de chez nous. Et il faut me tordre un bras comme aujourd'hui pour sortir, comme en fin de semaine. Là,
on voudrait
que j'aille
d'ailleurs
au Salon du Livre deux jours. Je n'irai pas. J'aime ça, moi, être ça. Puis ce que je fais le gros de ma journée, je suis un gros liseux de journaux, de revues, etc. J'ai des coupes, j'ai des dossiers, puis un liseux de statistiques issu des statistiques du Québec. Canada, etc. Donc, le gros de ma journée, ça. Mais le soir, jamais je vais écouter, exemple, des émissions d'information, des émissions politiques, parce que là, ça m'énerve trop, puis j'ai de la difficulté à m'endormir. Alors, le soir, ce que je fais, j'écoute souvent du sport, mais pas de son. Sinon, je suis pas capable de dormir.
On peut écouter du sport sans son.
Oui, oui. D'ailleurs, c'est l'an passé, il y a eu une grève là, des techniciens au football canadien. Et puis, on s'est rendu compte que les cotes avaient augmenté. Parce que les gens... Moi, je pense que les gens...
Les commentateurs vont vous en vouloir.
Bien, je ne sais rien contre les commentateurs. Non. Chacun son style. Mais écoutez, une émission sportive... Bon, la seule chose qu'ils rajoutent, c'est des commentaires sur ce qu'on voit. Là. Moi, j'en ai pas besoin.
Qu'est-ce qui vous procure du bonheur? La définition du bonheur pour vous?
Ben c'est contrairement à ce qu'on dit, c'est pas dans la richesse là, puis personne, tu sais, quand on a un minimum, moi le bonheur, premièrement, c'est d'être heureux soi-même. Et d'être heureux, c'est d'être soi-même, c'est-à-dire que il faut être soi-même, il faut bien regarder ce qu'on... Puis c'est pas analyser, etc. Faire ce qu'on aime faire. Et puis quand on est heureux, puis on fait ce qu'on aime, mais moi, c'est là que notre foi, etc., qu'on va être utile aux autres, qu'on va être des bouffées d'air frais, qu'on va être des modèles. Puis là, exemple, je veux pas dire faire des choses pratiquement. Exemple, les moines qui vivent dans la réflexion, qui mènent une vie spirituelle, moniale toute leur vie, font rien de pratico-pratique, mais ils ont leur utilité, c'est ça. Puis ils sont eux. Mais moi, je dis la première chose, c'est d'être vous-même. Mais d'être soi-même, c'est pas difficile parce que, vous savez, il y en a qui essaient de nous intimider, de nous dire, etc.
Êtes-vous un être d'intériorité parce que vous affirmez ouvertement, être un socialiste chrétien, mais au plan personnel, vous considérez-vous comme un être? Avez-vous besoin de ces espaces d'intériorité?
Oh, définitivement. Écoutez, moi, je suis quelqu'un qui prie pas loin d'une heure par jour. Donc, j'ai ma propre relation avec Dieu, etc. Mais ça m'amène à méditer, à réfléchir. Je marche je cours, je fais beaucoup de sport, je cours au moins 30 minutes par jour, mais je marche aussi 40, où là, ça m'amène à réfléchir. Ça fait plus de 30 ans que je vis seul.
Vous dites prier. Vous savez que, quand on est animé par la foi, la notion d'espérance est très présente.
Oui.
Vous avez mentionné tantôt toutes ces inégalités, ces injustices. Comment est-ce qu'on peut faire le pont entre l'espérance chrétienne, par exemple, et le monde dans lequel on vit?
Bon, mais c'est pas facile. Il faut que notre foi soit profonde. Écoutez, moi, je vous dis, foi profonde égale joie profonde. C'est pour ça, parce que c'est sûr qu'on avec tout ce qui se passe, pas seulement ici, ce qui se passe en Irak, ce qui s'est passé au Soudan, ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui se passe actuellement en Birmanie, ce qui se passe aux États-Unis, à Guantanamo, dans les prisons secrètes, etc. Bon, là, c'est sûr que... Parfois, on peut être porté au désespoir. Puis c'est là que ça teste notre foi. Puis moi, je pense qu'il faut être... L'espoir, c'est de se dire, bon, on fait ce qu'on peut, puis il y en a d'autres qui vont lutter. Il faut avoir confiance dans le prochain. Oui, il y en a des gens, on voit plein de jeunes, il y en a d'autres, etc. Faut pas essayer de tout mettre sur soi-même, puis essayer de tout régler nous-mêmes. Puis c'est ça, des fois, qui est notre problème, mais il y en a d'autres, etc. Puis de l'injustice, il va toujours en avoir.
Mais votre foi nourrit votre action?
Définitivement. Écoutez, ça m'amène selon mes moyens, parce que, bon, écoutez, selon mes talents, mes goûts, etc., selon mes ressources aussi. Moi, je dirais, je ne charge un budget de 120 000. Je n'ai pas un budget de 1 million, 2 millions, comme l'Institut économique de Montréal, le Fraser Institute ou le CDA. Donc, c'est sûr qu'avoir un budget d'1 million, puis avoir des ressources, puis avoir 5 chercheurs, j'en ferai plus, mais je me limite à faire ce que je peux. Puis avec les tribunes que j'ai, il est bien évident que, c'est pas moi, la section économie, finance du Journal de Montréal ou de la presse, ou de voir, ils ne m'appelleront pas. Ils vont appeler leurs économistes de banque, leurs économistes de bureau de comptable, ils vont emmener leurs économistes de service aux universités, etc. Mais selon ce qu'on me donne, puis selon mes capacités aussi, il y a des fois je dois dire non, mais c'est ça qu'il faut essayer de doser. Parce que vous savez, moi, je pense, un des problèmes, là, je viens d'avoir un petit problème de santé, j'ai un cancer de la prostate, je pense, je suis rendu à 60 ans, j'en faisais trop, j'en prenais trop sur moi, puis même si c'était du bon stress, là, j'aimais ça, j'avais 4 chroniques hebdomadaires à la radio. J'allais parler à tous les semaines. J'avais une conférence tous les semaines dans des cégeps, des groupes communautaires, des syndicats, des écoles secondaires. J'adorais ça, mais c'était trop. Même si c'était stress, là, il a fallu que je coupe la moitié de mes fonctions, de mon travail. Sinon, on ne passera pas au travail. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut vivre l'espoir. C'est une grande preuve que de la profondeur de notre foi. Moi, je pense qu'il faut avoir espoir à l'avenir, espoir à notre prochain, puis espoir qu'il y en a d'autres qui vont le faire, là. Sinon,
on peut pas poursuivre sa mission, sinon.
Ben moi, est-ce que c'est une mission ou pas? Je sais pas, le mot mission, là, ça veut dire que c'est... Vous savez, on se rend compte quand... Parce que c'est partie de la nature humaine. Aider à notre façon, apporter à notre façon à autrui, c'est ça qui nous rend heureux. Ces gens-là, c'est peut-être moi qui est égoïste, parce qu'aider les autres,
ça vous rend
tellement heureux. C'est de l'égoïsme, là.
C'est la plénitude, en quelque sorte.
Ben ouais, c'est un peu de la sérénité, c'est de la plénitude, c'est un double sens.
Alors là, on va vous faire plaisir. Parce qu'on a une musique qui probablement favorise l'émergence d'une intériorité. C'est ce grand compositeur, Mozart, et un extrait d'un de ses quartets pour violon. Alors, Mozart, pour vous spécialement. Merci bien. Thank you. Nous sommes déjà presque au terme de notre rencontre avec M. Léopold Lauzon. Ça a passé très rapidement, M. Lauzon. Vous êtes toujours aussi vif, toujours aussi animé par ce que vous voulez encore défendre. Vous me disiez que vous avez été aussi lecteur d'épîtres à l'église.
Oui, quand je vivais en ville, à Saint-Pierre-Apôtre et Miraculée-Conception, ça me captivait quand le curé, exemple à Saint-Pierre-Apôtre, des chenots, avant ça, Léandre Bergeron, après ça, des chenots, me demandait de lire les épîtres. C'est drôle, parce qu'à Saint-Pierre-Apôtre, lire les épîtres, j'arrivais toujours, là, au moins une heure d'avance pour lire, parce que c'est pas long, une épître, là.
Ça vous rendait plus nerveux que de vous adresser une foule?
Ah oui, moi, je m'adressais, là, peut-être à 20, 25 personnes, ou 50 personnes qui avaient à l'église. J'avais une tension, j'étais nerveux, mais une bonne nervosité. Parce que là, oubliez pas, là, vous lisez des trucs là, qui émanent de l'Ancien Testament, qui est des enseignements du Christ, etc. Surtout quand vous êtes croyant, j'y mettais une application, puis ça, j'étais plus fébrile, plus nerveux que quand je parle, c'est pas moi, dans des cégeps ou à des syndicats où il y a 1000 personnes. J'étais comme, comment dire, là,
ça vous prenait de l'intérieur.
Ah oui, définitivement, définitivement.
Qu'est-ce qui vous rejoint encore dans ce message? Bien sûr, on ne repartira pas sur la question des inégalités, mais qu'est-ce qui fait que le message est encore pour vous très actuel, dans le message évangélique, par exemple?
Ben moi, écoutez, c'est de voir toute cette pauvreté. Moi, je peux pas voir, écoutez, quand on voit, là, puis faut arrêter de niaiser le monde, là, c'est quand on voit la pauvreté des gens, des statistiques des gens qui vont à l'école ici même, puis là, pour les riches puis les politiciens, on l'a vu, là, au dernier, là, comment dire, sommet du millénaire, où on invite des vedettes américaines, où on invite des politiciens gratins et tout là, etc. Puis là, on parle de pauvreté, mais on réglera rien. Mais on se montre, tu sais, puis là, on se fait photographier avec des chèques là, gros comme mon cul, etc. C'est pas la façon de régler la pauvreté dans le monde. J'ai toujours dit non à la charité privée, au capitalisme de compassion, au libéralisme social, etc.
Alors, c'est le partage.
La charité à tous ceux qui ont une contingence dans la vie. La charité est due en droit et non en charité, elle est quémandée. Moi-même, quand j'étais jeune, je m'en souviens dans le temps des fêtes, il y a des gens qui venaient nous porter des paniers de Noël. Faut voir comment c'est humiliant recevoir, vous êtes de bonne foi si vous venez me porter un panier de Noël, mais vous savez, on sent qu'on est tellement inférieur, puis il faut que vous venez nous remercier parce que vous me donnez une paire de bottes, etc. Quiconque a une contingence dans la vie, etc., comme tous les gens qui n'ont pas, ça leur est dû en droit. Si vous êtes vraiment un chrétien, vous allez donner, vous allez payer vos impôts pour que l'État s'en occupe, mais vous ne ferez pas, exemple, un show-off, vous allez donner un chèque de 10 000, puis là, vous voulez qu'on vous pose avec un enfant malade ou un pauvre, puis vous savez, avec un chèque, le long de même, là, etc. Ça, c'est
alors, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Ben voilà.
Monsieur Lauzon, ce fut un réel plaisir que de vous recevoir. On vous sent encore aussi animé que ce que vous avez toujours projeté depuis de nombreuses années dans les médias. Un discours qui, bien sûr, est discordant à l'égard de ce que l'on entend dans les journaux, dans les médias de manière générale, mais un discours à la fois rafraîchissant, parce qu'il permet peut-être de jeter un regard différent sur la réalité qui nous entoure. Merci infiniment de cette présence.
C'est moi qui vous remercie, M. Dubois, de votre invitation.
Merci beaucoup. Alors, c'était Destination Bonheur. Avec nous, M. Léopold Lauzon de l'Université du Québec. Et nous vous reviendrons la semaine prochaine. Au plaisir et demeurez à l'antenne de Radio Ville-Marie.